Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. 13e année, la résistance au nihilisme. Aujourd'hui, aura du perçu.
Merci d'être là pour cette dernière séance consacrée à Michel Dufresne. On finira avec Michel Dufresne le portrait des je ne sais combien de philosophes qui ont constitué cette galerie de la contre-histoire de la philosophie. J'ai intitulé cette séance « Aura du perçu » parce que c'est une expression de Michel Dufresne lui-même et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien pourquoi il prend sa place et pourquoi il est légitime dans une contre-histoire de la philosophie où habituellement on n'a pas le souci du perçu, où le réel c'est moins le perçu que le conçu, où la réalité concrète et empirique, elle n'a pas droit de cité parce que ce qui importe c'est le concept, c'est l'idée pure avec des majuscules. Donc il y a effectivement chez Michel Dufresne une vraie proposition empirique, concrète, qui nous permettra de voir que cette philosophie-là, elle a existé en plein délire structuraliste. Il y avait dans cet ouvrage dont je vous ai parlé la dernière fois, pour l'homme, une partie qui était extrêmement critique, au sens premier du terme, au sens étymologique, c'est-à-dire c'est le crible, on passe au crible. Les philosophies des philosophes du moment, ce qu'il appelle les jeunes philosophes, la pensée du concept ou la pensée conceptuelle, c'est-à-dire les structuralistes, la pensée de ces gens-là est en train de se faire, c'est-à-dire qu'ils pensent vraiment de manière immédiate ce qui n'est pas encore terminé dans l'œuvre des individus, mais aussi dans l'œuvre de l'histoire des idées, c'est-à-dire que chacun ira jusqu'au bout éventuellement de cette impasse, parce que tous en reviendront. Puis il y aura un moment où on pourra parler du moment structuraliste, même si je pense que ce moment produit toujours des effets. Et puis il y a donc une partie qui, elle, est plus positive. On n'examine plus la pensée des autres, mais on propose autre chose. Et ce que propose Michel Dufresne, c'est extrêmement classique, mais ça paraît révolutionnaire dans un moment où tout le monde délire à cette époque-là. Il propose de revenir à l'homme, de réhabiliter l'homme, l'humain et l'humanisme. Il s'agit donc pour lui d'en finir avec la violence capitaliste. On verra que c'est son combat aussi, parce que l'homme n'est pas l'illusion qui surgirait à partir de structures qui elles-mêmes seraient invisibles, mais c'est une figure éminemment concrète, placée dans une histoire et dans un temps. Et ce temps-là, c'est le temps du capital et c'est le temps du capitalisme. Michel Dufresne se demande comment on peut articuler la mort de l'homme et en même temps les combats pour les droits de l'homme. Parce que tous ces philosophes, dont on dit qu'ils constituent la fameuse French theory, la théorie française, c'est l'expression qu'on utilise outre-Atlantique, tous ces individus n'ont pas été apolitiques. Même si c'est peut-être moins visible chez Claude Lévi-Strauss ou chez Roland Barthes, encore que, mais chez tous les autres, il y a eu vraiment des engagements éminemment concrets. Et c'est une question qu'on a pu poser à Derrida en un temps, où il s'était fait prendre, j'allais dire, la main dans le sac, c'est pas le cas. Enfin, on avait fabriqué un Derrida trafiquant de drogue en Tchécoslovaquie, ce qui n'a évidemment pas été le cas. Mais enfin, c'était une façon de le mettre en prison. Et parce qu'il allait là-bas lutter pour la défense des droits de l'homme, on disait, mais comment peut-on, d'une part, dire que l'homme est mort, et d'autre part, lutter pour les droits de l'homme? C'est quoi cet homme des droits dont vous parlez? Qu'est-ce que cet homme qui aurait des droits et qui ne serait tout de même pas un homme non plus? C'était une question, évidemment, qu'on pouvait poser à cette époque-là et qu'on n'a pas manqué de poser à quelques-uns. Et Derrida, lui, avait eu l'honnêteté de consentir au paradoxe, pour le moins. L'homme et la philosophie sont indissociables, nous dit Michel Dufresne, et annoncer la mort de l'homme, c'est aussi annoncer la mort de la philosophie. Ça a été aussi une grande thématique héritée de Hegel. Hegel considère qu'il y a toute l'histoire de la philosophie avant lui, puis que ça débouche à lui, sa petite personne, et que lui achève la philosophie, après lui il n'y aura plus de philosophie. Donc c'est une théorie que d'autres reprennent pour dire que la philosophie est morte et faire de la philosophie quand même. Ça a été très lucratif, ce commerce de la mort de la philosophie, pour nous expliquer à longueur de livre de philosophie que la philosophie était morte en même temps que l'homme qui était mort mais dont on ne cessait de parler. Donc Dufresne soulève évidemment ces paradoxes-là. Il y a dans l'annonce de la mort de l'homme un évident intérêt pour l'homme. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut de l'intérêt pour cet intérêt, puisque nous devons pouvoir dire que l'homme n'est pas une fiction et qu'il est même une réalité, qu'il est peut-être même la seule réalité. Il restaure pour ce faire, donc Michel Dufresne, ce qu'on appelle le sujet transcendantal kantien, Je vais vous expliquer ce que signifie ce gros mot, et un petit peu plus tard, parce qu'on le verra réapparaître, on l'a déjà vu apparaître. C'est un gros mot qu'on confond souvent avec transcendance, pas du tout la même chose. Le transcendantal, c'est ce qui relève de la raison pure. Il n'y a pas plus immanent que du transcendantal. Le transcendant, c'est ce qui échappe à ce monde. Donc il n'y a pas plus sorti du monde que le transcendant, alors que le transcendantal nous y arraisonne. La mort de la philosophie annoncée par ces philosophes, c'est la mort de leur philosophie, nous dit Michel Dufresne. Quand Heidegger, par exemple, déplore l'oubli de l'être, il renvoie évidemment à l'homme qui oublie l'être. Il n'est pas question de parler de l'être, même si on a vu la complexité du concept, il n'est pas question de parler de l'être sans l'homme qui pense l'être, sans l'étant qui pense l'être. Ça pourrait être aussi un paradoxe renvoyé à Martin Heidegger, de lui dire que sans l'étant, pour penser l'être, l'être n'est pas. Et que si l'être est un produit de l'étant, alors peut-être qu'il n'est qu'un étant comme les autres ou parmi les autres. C'est ma proposition, c'est pas celle de Michel Dufresne qui lui dit que le fait que Heidegger déplore l'oubli de l'être fait qu'il déplore que l'homme oublie l'être, et donc on ne peut pas congédier aussi facilement que ça l'homme et l'humain. La philosophie pose la question du sens, et la question du sens est inséparable de l'homme qui pose cette question du sens. La question du sens, elle n'est pas en l'air. Elle est posée par un homme. Donc quoi qu'on fasse, on ne peut pas faire l'économie de cet homme et de cet humain. Il a une façon de penser la philosophie qui m'intéresse aussi beaucoup. Il écrit, Michel Dufresne, « On attend du philosophe qu'il témoigne de sa philosophie en la vivant. » On attend du philosophe qu'il témoigne de sa philosophie en la vivant. Donc on peut effectivement poser la question concernant les individus dont il a parlé précédemment dans son ouvrage, Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, Derrida, Foucault, Barthes, quelles étaient les vies de ces philosophes-là? Est-ce qu'il s'agissait de vies philosophiques? En sait-on assez? Peut-on le dire? Est-ce même pensable ou envisageable? On peut aussi, c'est la vieille articulation Sainte-Beuve ou Proust, est-ce que Proust a raison? Est-ce que Sainte-Beuve a raison? Vous savez que Sainte-Beuve disait que la biographie permettait de comprendre l'œuvre. Et Proust, lui, disait pas du tout, dans un texte qui est devenu célèbre, qui s'appelle « Contre Sainte-Beuve », Proust disait non, il y a deux moi, au moins deux moi. Il y a celui qui vit, il y a celui qui écrit. Et ce ne sont pas les mêmes. Ils sont séparés, ils sont dissociés. Donc il y a toujours, encore aujourd'hui, des gens qui sont des partisans de Proust sur ce terrain-là, deux moi, au moins, et puis ceux qui sont des partisans de Sainte-Beuve. Vous aurez compris que moi je suis plutôt partisan de Sainte-Beuve, que Dufresne l'est, et que tous les philosophes dont nous avons parlé dans cette contre-histoire de la philosophie sont d'une certaine manière des gens qui donnent raison à Sainte-Beuve, sont des gens qui pensaient que la philosophie n'allait pas sans la vie qui va avec. Eh bien, quand on regarde très précisément, on voit que tous ces gens-là, Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, etc., ont eu des vies de professeurs, beaucoup plus que des vies de philosophes. Et il ne vient à l'idée de personne, par exemple, quand on a une agrégation de philosophie, certains disent, parce qu'ils sont agrégés de philosophie, qu'ils sont philosophes, il ne vient jamais à l'idée de quelqu'un qui est agrégé d'anglais de dire qu'il est anglais. Il est agrégé de langue anglaise, mais il n'est pas anglais pour autant. Eh bien, on peut imaginer la même chose avec le philosophe, qui peut être diplômé en philosophie sans pour autant être philosophe. Et on peut aussi être philosophe sans être diplômé en philosophie. Il y a une séparation entre le philosophe et le professeur de philosophie. Les philosophes dont on nous parle, ces fameux jeunes philosophes de l'époque, ils sont tous, je regarde, mais oui, ils sont tous morts. Tous ces philosophes-là ont eu des vies d'enseignants, et pas des vies de philosophes, ou pas forcément des vies philosophiques non plus. Ils ont tous travaillé au Collège de France, à l'École pratique des hautes études, à l'Académie française, qui sont des lieux où on apprend à penser peut-être, mais sûrement pas à vivre. Le Collège de France, l'École pratique des hautes études, n'est pas un endroit où on apprend à mener une vie philosophique. La philosophie, c'est un produit d'homme fait pour les hommes, pour les autres humains, et non pour des philosophes. Les philosophes ne s'adressent pas aux philosophes, du moins ça devrait être le cas, on devrait s'adresser à tout un chacun, mais à cette époque, cette fameuse jeune philosophie, elle s'adresse effectivement aux philosophes. Et de fait, souvent, on commente beaucoup plus dans ces ouvrages-là le travail que tel ou tel fait que la réalité. On est dans ce que Montaigne appelait glose et entre-glose. Il y a effectivement, nous dit à plusieurs reprises Michel Dufresne, et je l'ai déjà dit, il y a une contradiction à dire que l'homme est mort et en même temps à militer pour un certain nombre d'hommes et de combats qui relèvent des droits de l'homme. Et de fait, Foucault, par exemple, travaille sur les prisons, sur l'homosexualité, sur les transsexuels, sur les fous, sur les criminels. Il prend leur parti contre la société et donc il défend des hommes. des fous, des homosexuels, des transsexuels, des criminels ou des prisonniers. Prisonniers dans Surveiller et Punir, la question du transsexuel dans son travail sur Herculine Barbin, par exemple, la folie, évidemment, l'histoire de la folie, ou les criminels dans ses cours, mais aussi dans l'histoire de la folie. Deleuze, lui, défend les Palestiniens. Deleuze et Foucault défendent les terroristes de la bande Abadère. On a eu l'occasion déjà d'en parler, pas forcément pour les mêmes raisons, mais l'un et l'autre considèrent que le maître Croissant était tout à fait défendable, et d'une certaine manière la bande Abadère également. Derrida, donc, dont je vous disais tout à l'heure qu'il militait aux côtés des dissidents des pays de l'Est, ou cette fameuse cause terrible, il faudra un jour s'interroger sur l'aveuglement qui a fait que dans les années qui ont suivi mai 68, La quasi-totalité, on cherche les exceptions, des intellectuels ont défendu la pédophilie. On souhaitait la décriminalisation, la dépénalisation de la pédophilie. Effectivement, Foucault, Deleuze, Derrida, Barthes, Althusser ont défendu la pédophilie, mais on pourrait ajouter, au-delà des structuralistes, ils étaient toujours vivants à l'époque, que Sartre y est allé aussi, que Simone de Beauvoir y est allé aussi, sans oublier des gens encore vivants et connus comme Philippe Solaire, Sarah Finkielkraut ou quelques autres. Donc tous ces individus ont défendu, certes, des causes, mais aussi des individus, des individualités, des subjectivités. Donc comment peut-on d'un côté dire il n'y a plus de sujet, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de personne, il n'y a plus d'homme ou il n'y a plus d'humain, et passer autant de temps à défendre des combats évidemment extrêmement humains. Michel Dufresne écrit « La philosophie n'exige donc pas que l'homme soit mis entre parenthèses, ou placé au service de quelque instance transcendante, et par exemple de la philosophie elle-même. Au contraire. La philosophie ne garde son sens que si elle est discours d'un homme qui s'adresse à des hommes et leur parle du monde de l'homme. » Il s'agit donc pour Michel Dufresne de sauver l'homme, donc pour lui la philosophie, c'est à peu près la même chose. Et faire de telle sorte que la philosophie permette de penser de nouvelles relations entre l'homme et le monde. Il s'agit pour ce faire, c'est une citation, de réhabiliter la subjectivité. Réhabiliter la subjectivité. On a tué le sujet, il s'agit de ressusciter le sujet. L'homme, nous dit-il, est d'abord un être concret. Pas besoin de chercher une définition qui nous permettrait de parler de sa grandeur, de sa force ou de sa vitalité. Donc c'est une façon aussi de dire que le travail que fait Michel Foucault de définition de l'homme est un travail d'une certaine manière inutile. On n'a pas besoin de dire à tout un chacun ce qu'est l'homme, chacun sait ce qu'est l'homme. On peut passer son temps à définir le temps, à définir le mouvement, à définir un certain nombre de choses, mais il y a presque une intuition empirique qui fait que tout un chacun sait bien de quoi l'on parle. Donc pas besoin de définir forcément cet homme. Il écrit, Michel Dufresne, « Le sujet n'est transcendantal qu'à condition d'être empirique. » Le sujet n'est transcendantal qu'à condition d'être empirique. Je rappelle, transcendantal dans les limites de la raison. Dans les limites de la raison. Et pas transcendant. Hein. Donc s'il est empirique. Empirique, c'est-à-dire objet d'expérience. Il y a de l'empirisme à partir du moment où vous dites que la connaissance n'est possible ou pensable qu'à partir des informations que vous aurez données vos cinq sens. C'est Locke, si vous voulez, qui, d'une certaine manière, est le grand penseur de cet empirisme-là. Ça paraît une banalité de le dire, mais pendant des siècles, des philosophes ont fait savoir que le réel, ça n'était pas ça, que la connaissance, ça n'était pas ça. Le réel, c'est un réel empirique, susceptible donc d'expérimentation, et l'expérimentation, elle se fait par les cinq sens, par le corps, qui informe l'intelligence. L'intelligence, elle ne fonctionne pas sans un corps éminemment concret. Il prend, ce faisant, à rebours la totalité de la philosophie occidentale, Michel Dufresne. C'est très modeste, mais c'est d'une grande violence, d'une grande charge, parce que des grands anciens aux contemporains du moment qu'il attaque, il nous fait savoir, Michel Dufresne, que tout ça, c'est à mettre dans le même sac. Nonobstant les différences de formes, les formules ou ce genre de choses, c'est la même chose de Platon à Althusser, d'Augustin à Derrida, de Descartes à Foucault, de Kant à Lévi-Strauss, de Hegel à Lacan, de Freud à Barthes, c'est la même chose. Tous ces individus-là ont un vocabulaire particulier, mais une vision du monde qui reste exactement la même, c'est-à-dire qu'il existe des objets transcendants, d'une certaine manière, qui prennent la place des objets transcendantaux. Il existe des idées qui sont supérieures à la réalité. Il existe des concepts qui sont plus vrais que ce que vous voyez. Il refuse l'empirique, il refuse l'empirisme. Il suffit de renvoyer aux idées, aux concepts, aux noumènes, c'est un mot de Kant, à l'esprit absolu de Hegel, à la substance pensante de Descartes, à l'inconscient de Freud ou à la structure. Tout ça, c'est d'une certaine manière de la même famille. Il faut passer de l'autre côté et nous dire que les idées pures n'existent pas. où il faut savoir que ce ne sont que des idées pures, qu'il n'y a pas une autonomie de l'idée pure et que l'idée pure ne fonctionne pas comme une vérité absolue. Il s'inscrit, lui, dans un autre lignage, et c'est le lignage de la contre-histoire de la philosophie, c'est-à-dire de Démocrite jusqu'à Sartre, si on pouvait intégrer la philosophie de Sartre. Je ne l'ai pas intégré pour les raisons que vous savez, je l'ai traité en creux quand on a abordé Camus, mais il y a effectivement chez Sartre une façon de même s'il utilise le vocabulaire de la corporation, de penser le réel. Le boc de bière, la cigarette, la pipe, la boule de billard, le garçon de café, enfin quand vous prenez la lettre et le néant, c'est rempli de descriptions de ce qui est véritablement. Pas question de penser à une idée, mais on fait une phénoménologie du baiser, de la caresse, enfin toutes ces choses-là se retrouvent dans l'être et le néant. C'est d'ailleurs ce qui a séduit à cette époque-là. L'homme empirique dont il nous parle, et pas l'homme structuraliste, l'homme empirique, eh bien, c'est d'abord quelqu'un qui est doué de la faculté de penser. Impossible donc d'être dans la mode du moment qui fait qu'à l'époque on dit « ça pense en moi » ou « ça pense en lui » ou « on pense en lui ». Où on pense dans telle ou telle personne. On et ça, c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas « je » ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas « moi » ? Qu'est-ce qui empêcherait qu'on puisse dire « je pense » ? Pourquoi est-ce qu'on dit « on pense » ou « ça pense » ? Ça pense parce que quelque chose en moi, qui ne serait pas moi, produirait des effets dont on pourrait dire qu'il s'agit de ma pensée, mais finalement c'est une pensée qui me hante et qui m'habite presque à mon corps défendant. C'est contre ça, effectivement, que Michel Dufresne s'oppose, parce que lui, il ne veut pas qu'on dise « ça » ou « on », il veut qu'on dise « je » ou « moi ». Il dit « le cogito est imprescriptible, toute pensée est le fait d'un homme pensant ». C'est toujours un peu sidérant de dire des choses pareilles, parce qu'on a vraiment l'impression de vérité de la palisse, mais ce qui est sidérant, c'est qu'on puisse dire l'inverse, qu'on puisse penser le contraire, et qu'on puisse entraîner derrière soi, dans une espèce de phénomène totalitaire, là aussi, un certain nombre de personnes qui vont finir par enchaîner les sottises ou les contre-vérités ou les paradoxes en considérant que c'est ça, la vérité, et que quiconque s'oppose aux sottises et aux paradoxes est un sot. Michel Dufresne nous dit que les fameux jeunes philosophes du moment pensent et que même quand ils pensent faussement, ils sont humains. Ce qu'ils pensent fait la démonstration qu'il n'y a pas quelque chose qui penserait en eux, mais qu'ils devraient pouvoir dire « je pense, ils pensent ». Et c'est donc la preuve que la pensée existe et que le sujet transcendantal existe véritablement. Les concepts ne préexistent pas aux hommes, ce sont eux qui les produisent. Là aussi, c'est quand même sidérant de devoir le dire, c'est-à-dire c'est un homme qui crée un concept et le concept, il est le produit d'un homme. Eh bien non, les structuralistes nous disent le concept existe et c'est le concept qui va produire l'homme. Voilà pourquoi c'est une fiction. Donc on inverse les perspectives, le concept est plus vrai que l'homme. On évince l'homme qui n'existe plus. Et on habilite le concept qui est seul à exister, sous forme de structure. Donc c'est toujours sidérant, me semble-t-il, de dire que c'est le créateur qui produit sa création, alors que les structuralistes nous disent que c'est la création qui produit le créateur. Toujours sidérant de dire que c'est l'auteur qui écrit le livre, puisqu'on nous dit que c'est le livre qui, d'une certaine manière, rend possible l'auteur, et que c'est le lecteur qui va rendre possible le livre, à partir du moment où il fera une lecture. Là aussi, on aurait pu dire à Barthes, mais le lecteur, c'est aussi un humain. Je veux bien qu'il n'y ait plus d'auteur, mais il n'y a plus d'auteur, mais il y a quand même un lecteur. Ça veut dire que l'humain que vous avez évincé en tant que scripteur, pas en tant que scripteur, en tant qu'auteur, puisqu'on dit à l'époque scripteur pour dire qu'il n'y a plus d'auteur, eh bien cet humain-là, il revient sous forme de lecteur. Même chose avec l'artiste qui crée l'œuvre, alors que les structuralistes nous disent que c'est l'œuvre qui crée l'artiste. Il s'agit donc de redonner du corps à la totalité de toutes les perspectives empiriques et de faire de telle sorte qu'on remette la philosophie sur ses pieds, parce qu'elle marche sur la tête. Dufresne nous dit « Le réel est toujours pour l'homme ce qu'il en fait et ce qu'il en pense ». Ce qu'il en fait et ce qu'il en pense. Formule très sartrienne, en passant. Eh bien, les structuralistes, eux, inversent absolument cette perspective. Les structuralistes pensent que les hommes ne font pas le réel, mais que c'est le réel qui fait les hommes. Le réel n'est donc pas un réel empirique et concret, pour eux, pour les structuralistes, mais un réel structurel, transcendantal, incréé, invisible, ineffable. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Dufresne dit « Mais comment peut-on faire une théorie de la productivité ?» en évinçant les producteurs. Comment est-ce qu'on pourrait faire une théorie du langage en évitant celui qui parle puisqu'on nous dit que, finalement, ça n'est pas nous qui faisons le langage, mais c'est le langage qui nous fait. Le langage, nous disent les structuralistes, n'est pas un produit des usages, mais c'est un effet de son être propre. Le langage existe, même si les hommes n'existent pas. Par exemple, on imagine qu'il n'y a plus d'hommes du tout, et bien le langage existe tout de même. On est dans une vraie configuration platonicienne, effectivement. Comment pourrait-on également envisager un art sans artiste qui le produirait, un art sans l'individu qui pourrait produire une photo, une sculpture, une peinture, une symphonie, composer une symphonie ou écrire un roman? C'est évidemment l'artiste qui fait l'œuvre. Et hélas, il faut le dire ou le redire. Définir l'homme comme un pur concept, c'est considérer qu'il n'a pas de présence empirique, il n'a pas de présence réelle et concrète. Voilà pourquoi, et c'est à ce moment-là qu'il en parle, Michel Dufresne invite à se placer au ras du perçu. Le perçu, c'est le lieu d'où le réel est le mieux considéré, le mieux envisagé. C'est pas le cas de tout le monde. De Platon à Alain Badiou, vous avez un nombre considérable de philosophes qui vous disent que le perçu n'est pas le meilleur endroit pour penser le réel. Le meilleur endroit pour penser le réel, c'est le nombre, c'est le chiffre, c'est l'idée, c'est le concept, c'est la hauteur, si vous voulez. Donc on est absolument à l'inverse d'un Michel Dufresne qui veut être au ras du perçu, c'est-à-dire on ne fait pas plus auprès du sol, enraciné, parce que les philosophes de la tradition pensent qu'il faut prendre de la hauteur et d'une certaine manière être dans le ciel des idées. L'instrument de la connaissance, ça n'est donc pas ou l'âme ou l'esprit ou la raison kantienne déconnectée de la chair, mais c'est le corps. Dans l'Antiquité, chez Platon, par exemple, on vous dit que vous avez un corps corruptible, sensible, matériel, empirique, et une âme immatérielle, invisible, incréée, etc. Et vous avez des idées, invisibles, incréées, etc. Et votre corps ne peut pas penser ce qui n'est pas de même facture ontologique que lui. Le corps ne peut donc pas penser les idées. Ce sont les âmes qui peuvent penser les idées, parce que, d'une certaine manière, les âmes et les idées sont constituées d'une même texture ontologique. C'est un petit peu la même chose, si vous voulez. Donc, on ne connaît pas par le corps, mais on connaît par ce qui, dans le corps, échappe au corps. On connaît par l'âme. On connaît par une espèce d'instrument qui prend des formes diverses et multiples. L'âme, l'esprit, chez Descartes, ça deviendra la substance pensante. Il y aurait une substance pensante. Et puis, il y aura une substance étendue, nous dit Descartes, et ça marche comment, l'articulation? Comment est-ce qu'on fait pour mettre de la substance pensante dans une substance étendue, si on ne fait pas coïncider ces deux substances? Il invente un truc qui s'appelle la glande pinéale, il a ouvert des cerveaux, il a regardé à quoi ça ressemblait, et puis il a trouvé cette petite glande en nous disant que c'est dans ce lieu-là que la liaison se fait entre substance étendue et substance pensante, sans pouvoir évidemment apporter de preuves, puisque c'est une glande dont on sait aujourd'hui qu'elle s'appelle l'épiphyse et c'est pas évidemment le lieu de la liaison entre la substance étendue et la substance pensante, mais voilà comment dans la tradition on nous fait croire à l'existence en nous de quelque chose qui ne serait pas corporel et qui donc pourrait entrer en relation avec ce qui, dans le monde, ne serait pas corporel non plus. Michel Dufresne dit « il n'y a que du corps, il n'y a que du réel, il n'y a que de l'empirique. Si vous voulez penser le monde est fait de la même substance que vous ». Là encore, ça me paraît étonnant de devoir le dire, mais il s'agit de lutter contre rien moins que 25 siècles de domination, d'idéalisme, de spiritualisme et de tyrannie du dualisme. Le corps dont Michel Dufresne parle, c'est un corps réel, c'est pas l'idée du corps. Parce que bien sûr, le corps existe chez les philosophes idéalistes, mais il est encore une fois une idée. Mais c'est un corps réel, concret, et qui n'est pas concept ou conceptuel. C'est un corps empirique. Le corps dont il nous entretient, Michel Dufresne, il suppose un sujet qui n'est pas seul. Là aussi, il faut le préciser, les structuralistes, la plupart du temps, envisagent l'individu comme une espèce de monade, comme une espèce d'entité autonome. Or, nous sommes dans le monde avec les autres qui nous rendent possible. Un sujet ne se trouve jamais tout seul dans le monde. Nous sommes enracinés, nous sommes en relation, et il y a quelque chose qu'on appelle en philosophie l'intersubjectivité, c'est-à-dire la relation entre les sujets, et nous sommes constitués par l'intersubjectivité. Et elle nous constitue et nous la constituons en même temps. Donc il n'y a pas de structure transcendante, mais des relations concrètes. Citation, la rencontre de l'homme est sans commune mesure avec la rencontre des choses. Même quand vous vous retrouvez devant une œuvre d'art classique, un chef-d'œuvre par exemple, eh bien cette quintessence de la beauté est toujours inférieure au mystère de la rencontre d'un individu en particulier, quel que soit cet individu. L'individu, l'humain, est toujours supérieur au plus grand et au plus beau des chefs-d'œuvre. Autrui fait surgir immédiatement l'exigence éthique, nous dit Michel Dufresne. Sa présence me lance un défi. Il est unique, il est extérieur, il s'avère aussi un être d'exception, il s'ouvre à la communication, il me met en question, il me révèle une intériorité, il est le visage sensible de l'étang qui se tourne vers nous, il oblige à la reconnaissance de l'homme, en lui donc en nous. C'est très optimiste, c'est une philosophie qu'on trouve déjà chez Max Picard, puis chez Emmanuel Lévinas, puis chez Paul Ricoeur, son ami de captivité, puis chez lui également, et ce sont des philosophes qui nous font savoir qu'il y a une supériorité d'autrui. Il y a une existence d'autrui, mais une supériorité. D'abord l'autre, dit Lévinas, en termes d'éthique. S'il n'y avait, c'est une philosophie un peu obscure, enfin du moins difficile à lire, la philosophie d'Emmanuel Lévinas, mais il y a cette idée que autrui est prioritaire sur moi. Et autrui, c'est d'abord un visage qui surgit. Et le surgissement du visage d'autrui me contraint à l'éthique. On pourrait juste dire que ça n'a pas marché dans les camps de concentration et que le surgissement du visage d'autrui n'a pas empêché un certain nombre de barbares d'être des barbares. Et qu'encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le surgissement du visage d'autrui n'est pas suffisant pour faire éthique ou pour déclencher le processus éthique. Nous sommes en relation avec les autres, avec le langage. Et le langage, c'est un phénomène de culture. Ça n'est pas un effet de structure, c'est un phénomène de culture. On l'apprend. Cette intersubjectivité, elle est médiatisée par tout ce qui relève de la culture, c'est-à-dire la politesse, la morale, la convenance, la bienséance, l'éthique, la religion, enfin tout ce qui rend possible la relation avec autrui. Si nous n'apprenons pas, et ça marche évidemment pour toutes les époques, qui plus est pour la nôtre, si nous n'apprenons pas autrui, il n'existe pas. S'il n'y a pas de lieu où nous apprenons autrui, autrui n'existe pas. Il n'y a que nous. Si l'école, si la famille n'apprend pas autrui, nulle part on apprendra autrui. La culture est donc ce qui permet l'organisation d'intersubjectivité. Je le dis sans du tout penser à Najat Vallaud-Belkacem. C'est ce qui permet d'imaginer qu'effectivement nous ne sommes pas seuls au monde et que nous sommes en relation avec autrui, que la relation n'est pas forcément dans le regard autiste que l'enfant va lancer à sa tablette, mais que la relation, l'intersubjectivité, elle est dans la présence d'une communauté qui est la communauté des élèves, mais qui est aussi la communauté éducative, qui est la communauté des enseignants, qui est cette micro-république que devrait être l'école. Et effectivement, c'est le lieu du surgissement de l'intersubjectivité, théoriquement, mais il y a des moments où les intersubjectivités, on les fait disparaître. Cette culture, elle dissipe le mystère de l'autre, nous dit-il, Michel Dufresne, et elle devient un second corps. Elle constitue un autre monde, un second corps. Et de fait, c'est ainsi que ça fonctionne quand ça fonctionne. Quand on ne veut plus que ça fonctionne, eh bien, ça n'existe plus et il n'y a plus de monde, il n'y a plus d'autrui, il n'y a plus d'intersubjectivité. Le monde, c'est soi. Si nous n'apprenons pas autrui, le monde se résume à soi et à soi seul, et évidemment au moins beau de soi. Il existe, nous dit Michel Dufresne, un transcendantal naturel. L'homme est porteur d'un a priori. Il y a donc une nature humaine. Ça aussi, c'est une chose qu'il ne faut pas dire, c'est pas politiquement correct. Nous serions une espèce de cire vierge sur laquelle n'importe quel sceau pourrait s'imprimer. Eh bien, il nous dit, Michel Dufresne, que pas du tout. Il existe, nous dit-il, un pouvoir de saisir des formes et des expressions qui sont données sans être construites. Il nous dit également qu'il existe, citation, une forme première de l'a priori antérieure à la cassure du subjectif et de l'objectif. Autre citation, cela nous engage à chercher les racines de l'homme dans la matérialité du réel. Donc pas besoin de dire il y a un a priori qui constituerait la nature humaine et cette nature humaine, elle relèverait d'un héritage phylogénétique, pour utiliser l'expression de Sigmund Freud, pas du tout. C'est dans le corps, c'est dans la chair. Il n'entre pas dans le détail, comme un Merleau-Ponty aurait pu le faire dans la phénoménologie de la perception, par exemple, mais il nous dit effectivement qu'il y a dans le corps ce transcendantal dont je vous rappelle qu'il définit ce qui est dans les limites de la simple raison. Ce sont les conditions de possibilité de la connaissance, le transcendantal. Et ce transcendantal coïncide avec la nature de l'homme, à ne pas confondre avec un transcendant qui, lui, échappe à la raison et sort du réel empirique pour rejoindre le ciel des idées. Sur le transcendantal, il nous dit « il faut le penser au ras de la nature naturée », donc on est toujours au ras du perçu, hein, « il faut le penser au ras de la nature naturée, l'enraciner dans le corporel ou aussi bien le psychologiser ». Donc on voit bien que la psychanalyse a fusillé d'une certaine manière la psychologie et que les psychologues ont beaucoup souffert de la tyrannie et de la domination de la psychanalyse dans sa version freudienne. Mais il y a effectivement, dans le fonctionnement de la psyché, psyché, l'âme des Grecs, hein, si vous voulez, il y a dans le fonctionnement de la psyché des choses qui renvoient à la matérialité du réel, à la matérialité de l'individualité. Et on le sait bien quand on prend des substances pour agir sur la matérialité de cette substance. On voit bien que si vous prenez du café ou si vous prenez du thé, ça va vous exciter, de la caféine, de la théine, on sait comment ça fonctionne, de la nicotine, on sait comment ça fonctionne, les substances hallucinogènes, le vin, vous devriez savoir comment ça marche si vous en prenez un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Donc effectivement, on peut agir sur la psyché qui est matérielle. Cette psyché, elle est évidemment transcendantale et pas transcendante, et cette psyché-là, on peut la solliciter pour savoir ce que nous sommes. Citation, c'est du fond de la chair que se prépare l'ouverture au monde et que s'amorce la connaissance du monde. Le transcendantal, chez Michel Dufresne, c'est donc extrêmement simple, c'est un mot un peu compliqué qui cache des choses simples, la nature, le corps, la chair, la conscience, le monde, c'est-à-dire l'immanence absolue. Le sujet transcendantal est donc empirique, le sujet transcendantal est donc aussi capable de vouloir. La question de la volition, c'est-à-dire la possibilité de dire « je choisis ceci plutôt que cela », est une question qui a été recouverte par un siècle de philosophie dont on a dit qu'il s'agissait de la philosophie du soupçon. Et de fait, pendant très longtemps, on a cru que nous étions doués de volition, c'est-à-dire du pouvoir de choisir. Je vois, je veux, je choisis, je décide. D'accord, pas d'accord. J'ai décidé de faire, j'ai décidé de ne pas faire, etc. Le vouloir classique, c'est ça. Le vouloir moderne ou contemporain suppose qu'il y a une volonté qui nous veut. Nous ne voulons pas, mais nous sommes voulus par une volonté qui nous veut. Chez Schopenhauer, c'est la volonté, le vouloir, Wille en allemand. Chez Nietzsche, c'est la volonté de puissance, Wille zur Macht, c'est-à-dire le vouloir vers la vie, si vous voulez, vers la puissance. Chez Marx, c'est l'infrastructure économique. Chez Freud, c'est l'inconscient métapsychique. Mais à chaque fois, avec tous ces philosophes-là, il n'y a plus de place pour un sujet qui pourrait vouloir. Le sujet est voulu. Eh bien, Michel Dufresne nous dit, on en finit avec cette idée que nous serions voulus. Il nous faut désormais vouloir. Il écrit, le vouloir est un acte intentionnel au même titre que le sentir ou le concevoir. C'est une révolution en plein milieu du XXe siècle que de dire que la volonté n'est pas morte, que la possibilité de dire je choisis, je veux, je dirige mon existence, je veux cette existence-là plutôt qu'une autre, tout ça c'est révolutionnaire dans un temps où on vous dit que vous n'avez pas le choix. Et que ce que vous l'êtes parce qu'il y a un inconscient, un déterminisme de classe, des déterminismes sûrement pas physiologiques ou biologiques, puisqu'on a évincé le corps à cette époque-là, mais des déterminismes structurels, des déterminismes langagiers, des déterminismes de langage. Votre inconscient, nous dit Lacan, est structuré comme un langage. Ça veut dire qu'effectivement, le langage, vous y obéissez, puisque vous n'avez pas appris, il est déjà là. Et sur cette question du vouloir... il a en plus de ça l'audace, Michel Dufresne, de faire savoir que le vouloir, il existe chez tout le monde, mais pas de la même manière. C'est évidemment politiquement incorrect que de dire que certains en sont plus ou moins doués ou plus ou moins dotés. Il y a des gens chez qui la volition est plus grande que d'autres. La volonté n'est pas également partagée chez tous les hommes. Et en revanche, ce que nous pouvons dire, parce qu'une idée comme celle-ci pourrait... justifier la droite, mais ou une pensée de droite, la pensée de gauche ajoute, et c'est celle de Michel Dufresne, on peut apprendre à vouloir. On peut apprendre à vouloir. Nous sommes inégaux devant la volition, mais nous pouvons compenser ces inégalités, si tant est que nous apprenions à vouloir. Mais pour ça, faudrait-il encore vouloir. Il faut apprendre que le vouloir est possible. Citation. Chacun est l'homme de ce qu'il veut, pourvu qu'il le veuille assez constamment et assez fermement. Donc retour du sujet, retour du corps, retour de l'empirisme, retour de la volonté et retour d'une énergie, d'une certaine manière. Il s'agit aussi, pour Michel Dufresne, après avoir réhabilité le sujet transcendantal classique, de ce qu'il appelle « défaire l'inhumain ». Peut aussi entendre quelque chose comme un écho d'Albert Camus qui nous disait qu'on pourrait se contenter comme révolution d'éviter que le monde se défasse sans pour autant en vouloir un autre, mais juste éviter que le monde se défasse, ce qui serait effectivement une définition possible de la révolution chez Albert Camus, et c'est une définition qui pourrait fonctionner évidemment encore aujourd'hui. Il n'est pas Il veut de la morale, Michel Dufresne, mais il veut une éthique qui ne soit pas normative. Mais il dit qu'il s'agit aujourd'hui de faire l'homme, citation, c'est d'abord, autant qu'il est possible, défaire l'inhumain. L'inhumain, il s'appuie sur un certain nombre d'instances, la science, la technocratie, la bureaucratie, etc. Et effectivement, il y a une critique de la science, du moins de l'usage que les structuralistes font de la science chez Michel Dufresne. Par exemple, il va voir du côté de Lacan, et il nous dit que Lacan recourt à des concepts mathématiques. Et de fait, si vous lisez les écrits de Lacan, vous y verrez des mots comme analyse, géométrie, suite arithmétique, algèbre, calcul des probabilités, théorie des ensembles, théorie des jeux, nodologie, ces fameux nœuds borroméens. Et Michel Dufresne nous dit tout ça, c'est de l'esbroufe. Lacan est quelqu'un qui nous fait croire qu'il utilise des mots scientifiques, donc qu'il est dans un registre scientifique, mais il n'y a que l'apparence scientifique des choses. Il parle, Michel Dufresne, de mascarade et également de confusion. C'est le mot qu'il utilise au sens psychiatrique du terme. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'en 1997, Sokal et Bricmont publieront un livre qui s'appelle « Les impostures intellectuelles » et qui fera grand bruit dans le petit monde journalistique et philosophico-journalistique français, parce que Sokal et Bricmont ont écrit un faux article, qui est un article qui cite abondamment les fameux philosophes de la French Theory, et qui disent n'importe quoi. Sokal et Bricmont disent n'importe quoi. Mais c'est fumeux, c'est brillant, ça cite, comme le disait Lacan, comme le disait Derrida, comme le disait, parce qu'ils en allument quelques-uns, Lacan, Derrida, Kristeva, Bruno Latour, Baudrillard, Deleuze, Guattari, Régis Debray, Paul Virilio, ils font un texte terrible qui ne veut rien dire, mais comme il y a des citations autorisées, on fait toujours bien de citer ces individus-là, eh bien ce texte est passé dans une revue scientifique. Et donc après, ils ont dénoncé l'imposture, en le disant, bah écoutez, ça ne veut rien dire. Mais alors pourquoi vous avez publié quelque chose qui ne veut rien dire? Et donc ils ont fait cette analyse en expliquant que c'était de la poudre aux yeux, que cet usage de la science, c'est uniquement sur la question de l'usage de la science chez ces philosophes-là, en disant, mais quand Deleuze réfléchit sur le calcul infinitésimal, il se trompe. Quand Régis Debray utilise le théorème de Gödel, eh bien il se trompe aussi. Quand Lacan utilise les nœuds borroméens, etc., il se trompe également, etc., etc. Et c'est évidemment un argument d'autorité. Quand vous lisez un philosophe qui vous cite des mathématiques, c'est le cas de Badiou aujourd'hui, si vous n'êtes pas vous-même mathématicien et incapable de voir qu'éventuellement il vous envoie de la poudre aux yeux, vous pouvez dire qu'il y a de la scientificité dans son discours et y souscrire plus volontiers. Cette façon de faire, nous dit-il, est mauvaise et pour la philosophie, parce qu'on est dans l'imposture, et pour la science, qui se trouve ainsi dévoyée. Chez les structuralistes, la science permet d'éloigner le discours des hommes. C'est-à-dire, on utilise la science pour ne pas penser l'homme, alors qu'il faudrait utiliser la science pour repenser l'homme correctement. Donc, il n'est pas question pour Michel Dufresne de ne pas recourir à la science, mais de juste dire qu'il ne faut pas que ce soit un recours intimidant. L'homme, nous dit-il, Dufresne, est un vivant parmi les vivants, un vivant dans l'immensité de la prolifération de la vie. Tout est vivant partout, et il y a un vivant qui s'appelle l'homme. Comment pourrait-on penser ce vivant-là sans un certain nombre de sciences qui devraient nous permettre d'y accéder, par exemple la biologie, la psychologie ou la sociologie. La biologie nous permettrait de penser la vie. Qu'est-ce que la vie? Ça démarre quand? Y a-t-il de la vie dans une plante? Y a-t-il de la vie dans une pierre? Y a-t-il eu déjà de la vie dans une pierre? Est-ce que le vivant, c'est ce qui se reproduit? Est-ce que c'est... etc., etc. Il faudrait s'entendre sur la définition du vivant pour que nous puissions savoir de quel type de vivant nous pouvons parler quand il s'agit de l'homme. Même chose avec le conscient. La psychologie devrait nous permettre de savoir ce qu'est la conscience. La société dans laquelle nous vivons, eh bien, il faut la penser également. La sociologie doit donc permettre de savoir ce qu'est le monde dans lequel chacun vit. Il y a un passage extrêmement intéressant aussi, mais rapide, sur l'étrange succès de Sade chez les penseurs de la mort de l'homme. Et citer positivement Sade, nous dit Michel Dufresne, c'est être franchement irresponsable. Et là, il vise, dans les philosophes du moment, Foucault, Barthes et Lacan. De Sade, Michel Dufresne écrit « Ces philosophes qui aujourd'hui rencontrent Sade avec délectation, que feraient-ils si leur femme ou leur fille rencontrait un sadique ?» Point d'interrogation. Et de fait, cette façon de bien pointer que ce qui plaît chez Sade quand on a affaire à ces philosophes-là, c'est d'abord des agencements de textes, des agencements de discours, des produits de structure, des logiques intérieures au texte qui n'ont rien à voir avec le contexte, qui n'ont rien à voir avec la chose racontée. Dans sa lutte pour restaurer l'homme concret, l'homme empirique, il nous dit, Michel Dufresne, qu'il faut examiner les chances de l'homme aujourd'hui. C'est le titre d'un chapitre, les chances de l'homme aujourd'hui. Les jeunes philosophes, donc la French Theory, hein, les jeunes philosophes de l'époque, se croient originaux, nous dit-il, parce qu'ils annoncent la mort de l'homme. Or, cette mort de l'homme, elle est extrêmement visible et depuis un certain temps, et c'est le capitalisme qui tue les hommes. Il ne s'agit pas de dire de l'homme qu'il est une fiction, qui naîtrait fin 18e, début 19e, et qui disparaîtrait en 1966 avec l'annonce de sa mort par Michel Foucault dans Les mots et les choses. Il s'agit juste de dire que l'homme, avec une majuscule, ça n'existe pas, mais qu'il n'existe que des hommes, et que l'ensemble des hommes, ça fait l'homme, et que cet homme-là, il existe véritablement, et que la preuve de l'existence de cet homme, c'est que le capitalisme le tue et le massacre. Il fait la généalogie de cette mort de l'homme, éminemment et évidemment très concrète, et il va voir du côté des technocrates. Non pas de la technique, mais du technocrate. Le technocrate, c'est un technicien de la technique. Et il nous dit aujourd'hui, donc années 66, donc pour être précis, mais la technique, aujourd'hui, elle fait la loi avec les techniciens de la technique. Citation, « Le technocrate perpétue l'aliénation. Au lieu de régner par la terreur, il règne par l'ignorance. » Et tout conspire avec lui pour étouffer l'information qui aiderait l'homme à se libérer. Deux points, une éducation qui se garde d'éduquer, des moyens d'information qui se gardent d'informer. 66, hein, c'est pas écrit hier. C'est écrit à cette époque-là, c'est-à-dire que le technocrate fabrique de l'aliénation non pas avec de la terreur, mais avec de l'ignorance. C'était déjà à l'époque le règne de l'ignorance, le problème que soulevait Michel Dufresne. On n'apprend plus, l'éducation se garde d'éduquer, nous dit-il, et les moyens d'information se gardent d'informer. On y est, sur une école qui nous dit qu'il n'y a plus à éduquer, mais à faire de la garderie compassionnelle, ou des informations qui sont multiples, diverses et proliférantes, mais les véritables informations qui n'existent pas, c'est effectivement le règne du technocrate et de la technocratie. Michel Dufresne nous dit « nous sommes coupables et responsable de nous laisser aliéner par ceux qui ont intérêt à ce que nous ne pensions pas, à ce que nous ne soyons pas informés, à ce que nous ne soyons pas éduqués, à ce que nous obéissions et à ce que nous ne nous rebellions pas. » Il y a des lieux dans lesquels on voit fonctionner cette aliénation. Par exemple, la ville. Le citadin qui est perdu dans la ville ou l'ouvrier, par exemple, qui est perdu lui aussi dans son travail. Celui qui vit dans une mégapole ou dans une ville, pas forcément une mégapole, mais qui voit le délire de la ville, n'en veut jamais au technocrate qui a rendu possible cette ville-là. C'est une ville toxique, c'est une ville thanatophilique, elle produit la mort, elle produit la violence, elle produit la brutalité. La même chose avec un travail qui est souvent inhumain et dégradant. On voit bien les gens qui déambulent dans les villes comme des zombies, et parfois ça peut être aussi notre cas, ou les gens qui vont au travail avec dégoût, qui ne demandent jamais de compte. Regardez l'allure des gens dans les métros ou dans les trains quand ils partent travailler le matin, c'est rarement réjouissant. Rarement les gens ont du plaisir à être dans la situation qui est la leur, à moins que l'aliénation ne produise son effet à ce point. Le signe de la puissance de cette bureaucratie se trouve conjugué au fait que l'école n'enseigne plus et que les moyens d'information n'informent plus. Ce qui suppose, dans cette configuration, que les hommes perdent leur vocabulaire. Comment peut-on exprimer sa révolte quand on n'a pas les mots pour l'exprimer, quand on n'a pas les mots pour la penser non plus? Comment peut-on dire qu'on est aliéné s'il nous manque les instruments qui nous permettront de savoir que nous le sommes et les instruments qui nous permettront de dire pourquoi nous le sommes, quand nous le sommes, de quelle manière nous le sommes? Si effectivement on veut instaurer une dictature sur les individus, il suffit de cesser de les éduquer. On n'aura plus besoin, après ça, de considérer qu'il faudra de la police, de l'armée, des gardes-chiourmes ou des miradors. Il suffit d'avoir affaire à des individus qui, sans culture, sans histoire, sans information, sans savoir, sans mots, obéiront à tout ce qu'on leur proposera comme vérité. Il y a des éducateurs de l'époque, hein, on est là, je vous rappelle qu'on est toujours dans les années 60 et chez Michel Dufresne, mais il y a des éducateurs qui nous disent qu'on n'a plus besoin d'apprendre à compter puisque les machines sont dans l'école. À quoi bon apprendre à compter puisqu'il suffirait d'utiliser des calculettes? Et de ce fait, Les machines finissent, nous dit-il, par acquérir une autonomie et nombre d'individus finissent même par croire que la machine pense. Et effectivement, c'est une sensation étonnante que j'ai eue la semaine dernière en achetant un aspirateur autonome. Là. Je n'avais pas envie de passer l'aspirateur chez moi, donc je me suis acheté un robot qui passe l'aspirateur tout seul. On a presque envie de lui donner un prénom, lui demander s'il va bien, et s'il a bien dormi, s'il est allé à la selle, etc. Enfin, ça marche tout seul, et puis ça va, ça vient. On a l'impression qu'il est intelligent, parce que quand il voit un obstacle, il fait un petit tour, il tourne autour, etc. Et on peut comprendre à ce moment-là, effectivement, comment, à partir du robot, et c'est un robot minimal, hein, je veux dire, il n'a pas forme humaine, encore que certains ont des formes qui ressemblent, enfin peu importe, mais je veux dire, on se dit, voilà, il y a une autonomie de la machine, et cette machine nous donne l'impression d'être humain, tout simplement parce que les humains sont devenus des machines. Il y a une identification de l'humain à la machine, parce que la machine et l'humain et la machine, c'est devenu à peu près la même chose. Michel Dufresne analyse également, un peu dans l'esprit de Günther Anders, le cinéma et la télévision. Et il nous dit que cinéma et télévision produisent des images toutes faites qui nous dispensent d'imaginer. C'est terrible, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'on pouvait éduquer à l'imagination. On pouvait faire de telle sorte que l'instituteur puisse faire de telle sorte qu'on puisse s'ouvrir à des mondes, avec de la poésie, avec de la littérature, avec du théâtre, avec même, pourquoi pas, du cinéma. Notre époque est ainsi faite que les images nous sont proposées sans que nous ayons besoin de les imaginer. Plus besoin d'imaginer, moins on se sert de son imagination, moins on imagine. Moins on pense, moins il y a de pensée. Moins on parle, moins il y a de paroles. Moins on est capable d'élargir le vocabulaire, plus effectivement on détruit le vocabulaire et la langue. C'est-à-dire que la collectivité pense, compte, imagine pour les individus. Nous en sommes là. La vie privée se trouve formatée par les médias et l'esprit critique a disparu sous les effets de la servitude volontaire. Et c'est la technocratie qui obtient et entretient cette servitude volontaire. Il nous suffirait de ne plus vouloir, nous retrouvons donc la vieille volition, c'est la vieille capacité à vouloir et à dire non. Il nous suffirait de vouloir pour que le technocrate n'ait plus le pouvoir que nous lui donnons. Le pouvoir du technocrate, c'est le pouvoir que nous donnons au technocrate sur nous. Ce technocrate, il est au service du capital et du capitalisme, de la production. Uniquement de la production et de rien d'autre. Les individus ne savent plus donc ni lire, ni écrire, ni calculer, ni penser, ni imaginer, et jamais l'écart n'a été aussi grand entre les savants et les ignorants. Les individus renoncent donc à être des sujets, et ils se confient à des tiers. Parmi les tiers, c'est en passant, l'analyse ne va pas au-delà, mais Michel Dufresne pointe les psychanalystes, qui sont, nous dit-il, les nouveaux confesseurs. Et les psychanalystes, nous dit-il, nous font accepter de vivre avec nos névroses dans ce monde déshumanisé. Pas question de changer le monde, de vouloir un autre monde, il s'agit d'adapter l'individu à vivre avec ses névroses. Michel Dufresne prend l'exemple de l'architecte en nous disant qu'il est l'instrument de la déshumanisation des villes et des habitations privées. Il renvoie à Le Corbusier, les fameuses machines à habiter de Le Corbusier. Dans ces machines à habiter, les hommes s'entassent en masse. Et effectivement, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de subjectivité. D'une certaine manière, Le Corbusier propose en architecture ce que le structuralisme propose en philosophie. Les technocrates, nous dit-il, sont les nouveaux princes qui font la loi à laquelle obéit le politique. Les politiques demandent leurs avis aux technocrates et les technocrates prennent leurs avis auprès du capital et du capitalisme. Droite et gauche confondues. Tout ceci n'a pas de sens, nous dit Michel Dufresne. Dès lors, on voit bien ce qu'est la mort de l'homme, la véritable mort de l'homme. La mort de l'homme, nous dit-il, c'est d'abord l'extinction du sens. D'abord l'extinction du sens. Donc il n'est pas contre le fait qu'on puisse parler de la mort de l'homme, mais on voit bien que ça n'est plus du tout comme Michel Foucault l'entend, c'est-à-dire l'homme ne serait plus un concept qui naîtrait sur une épistémée particulière entre deux dates, mais il y a une vérité de l'homme, une réalité de l'homme, un homme empirique. Et cet homme-là, nous dit Michel Dufresne, il est en train de mourir. Je vais vous lire un long texte, mais extrêmement intéressant, de Michel Dufresne, qui nous dit, et c'est la thèse de Jean-Paul Sartre aussi sur le sujet, et je pense que Sartre, sur cette question, a raison, il nous dit que le structuralisme est vraiment l'agent du capitalisme. Voici la citation. « Ainsi, la jeune philosophie se trompe-t-elle quand elle croit prophétiser la mort de l'homme ? Elle enregistre la situation aujourd'hui faite à l'homme et, qu'elle en ait ou non conscience, elle l'exprime. Doublement, dans son contenu même, en mettant sa puissance de célébration au service de la pensée formelle, et en réduisant la réflexion philosophique à l'épistémologie, quitte à y mêler l'évocation somptueuse d'une apocalypse nietzschéenne. Pour dire ou promouvoir la démission de l'homme, la philosophie démissionne. Mais avec quel superbe ! Car cette philosophie exprime aussi notre temps dans sa forme. Elle adopte le style technocratique. Certes, elle n'a pas partie liée avec les pouvoirs, et elle entend défendre, au besoin contre eux, l'honneur de la pensée, mais elle revendique le monopole de cette pensée. Malheur à ceux qui ne pensent pas comme elle, car ils ne pensent pas du tout. S'ils prétendent encore faire de la philosophie, ils ne savent pas ce qu'ils font, qui est de l'idéologie. À quoi bon dialoguer avec des bavards ou des dupes incapables d'accéder au concept ? Cette philosophie s'est arrogée un domaine propre, l'ordre du savoir, comme dit Foucault, isolé, coupé de la vie et de l'histoire, assigné à une histoire propre. Il s'agit d'en faire la théorie, théorie de la substance réduite à l'attribut pensée, de la logique amputée d'une phénoménologie de l'esprit. En quoi le philosophe devient lui-même un spécialiste et son dogmatisme devient un sectarisme ? On a parfois l'impression que les écoles philosophiques constituent dans le marché de la culture des groupes de pression dont l'accès est réservé aux initiés et dont la fonction est le monologue bien plus que le dialogue. Car les philosophes parlent entre eux, ils parlent des hommes, ils ne parlent plus aux hommes. Voilà cette citation. Cette philosophie, nous dit Michel Dufresne, elle refuse à se rendre populaire. Et par exemple, au temps de Sartre ou d'Albert Camus, le philosophe ne rechignait pas, il était capable d'écrire des romans ou des pièces de théâtre pour défendre ses thèses auprès du plus grand nombre. Tout le monde ne peut pas comprendre l'être et le néant, mais tout le monde peut comprendre Huis clos. Tout le monde peut ne pas comprendre L'homme révolté d'Albert Camus, mais tout le monde peut comprendre Caligula ou Les Justes, par exemple. Cette philosophie, nous dit-il, citation, « quelles que soient les options personnelles de ses champions, parce qu'elle coupe la théorie, dont elle s'arroge la gestion, de la pratique, le concept de la vie, la philosophie de l'histoire, la philosophie moderne est réactionnaire. Et c'est un procès politique qu'il faut lui intenter. » Pour conclure sur ce sujet-là, il faut mettre en perspective Michel Dufresne et mai 68. On n'est pas loin de mai 68, deux ans avant mai 68. Et effectivement, il nous dit que des hommes meurent au Vietnam ou en Amérique du Sud pour que l'homme vive. Il y a donc une vitalité et de l'homme et de l'humanisme. Il s'agit de lutter à cette époque-là, c'est le vocabulaire, contre l'impérialisme américain. Et Dufresne nous dit que l'impérialisme américain, c'est pas vraiment la tasse de thé des jeunes philosophes. Alors que l'idée de justice, d'égalité, de bonheur, toutes ces idées-là n'ont pas perdu de leur intérêt. L'Occident semble résigné, mais le tiers-monde, on disait pas encore les pays en voie de développement, mais le tiers-monde, lui, prend le relais de l'humanisme. Mai 68 aura lieu et on verra un slogan qui, sur les murs de Paris, dira « Les structures ne descendent pas dans la rue ». On peut imaginer effectivement que mai 68 donnait tort au structuralisme et que c'était des individus qui descendaient dans la rue au nom d'un humanisme. Quoi qu'on ait pu penser des trotskistes, des gauchistes, des situationnistes, de tout le monde, y compris les communistes, même quand ils ne descendaient pas ou descendaient un petit peu plus tard, tout le monde voulait du bonheur, tout le monde voulait une autre vie, tout le monde voulait que les hommes soient plus heureux. Donc c'est une revendication humaniste, mai 68. C'est pas une revendication structuraliste ou anti-humaniste. Dufresne n'est pas marxiste. Il est de gauche, mais il n'est pas marxiste. Il est contre la dictature du prolétariat. Il est contre l'idée que la violence serait l'accoucheuse de l'histoire. Et il est sur des positions franchement libertaires. Il estime que la planétarisation est inéluctable. Ça paraît évident. Et à gauche, il fait quelque chose que très peu de gens de gauche font, c'est-à-dire il prend en considération la démographie. Il envisage la question de la réduction de la population par la contraception. C'était aussi un enjeu à cette époque-là. Par la régulation des naissances, en nous disant, c'était aussi un enjeu de l'époque, on en est un peu revenu, mais que si les choses n'étaient pas faites avec la contraception, elles se feraient avec la bombe atomique. On n'a plus la crainte de la bombe atomique comme on l'avait à l'époque, et c'est fort heureux, mais cette pensée-là s'inscrivait dans ces logiques-là. Il est très sensible au fait que il est optimiste aussi en ce sens, mais très sensible au fait que les machines libéreront les hommes des tâches ingrates, le travail cessera d'être humiliant et dégradant, les machines serviront à la libération des hommes, la rareté va disparaître, nous dit-il, elles dégageront du temps libre, les individus se cultiveront, l'éducation permettra de renoncer au désir du marché qui nous était infligé. Les loisirs, nous dit Dufresne, rendront chacun à soi-même. La culture et l'art, ce seront désormais des instruments d'édification de soi, plus du tout des occasions de distinction sociale, pour utiliser le vocabulaire de Bourdieu, mais une occasion de se construire, de construire son existence. Les hommes se repolitiseront, nous dit-il, se réapproprieront le monde, développeront l'information sous toutes leurs formes, donc ne seront pas les victimes d'une information unique. Il n'a pas tort, on voit ce que Internet a donné, mais on voit bien que parfois on a multiplié ce qu'il y avait de pire dans une information unique, c'est-à-dire le règne du mensonge généralisé. Ils s'initieront, les hommes, nous dit-il, à toutes les technologies pour éviter d'être les prisonniers des technocrates. Là aussi, ça partait d'une bonne intention. Et ils retrouvent ces amours de jeunesse, ou ces amours de toujours, je dirais, à savoir l'art. Il nous dit que dans le système capitaliste, l'art sépare les hommes, alors que dans une logique post-capitaliste, il faudrait que chacun puisse s'emparer de la culture, mais réellement. Pas de manière fictive, comme avec des happenings, où les gens poussent des cris, grimpent sur scène, et on a l'impression qu'on partage dans une grande fureur créatrice. Pas non plus comme dans des concerts de musique stochastique, comme on dit, avec Xenakis, Stockhausen ou quelques autres, et où on demandait au public de choisir l'ordre d'exposition des thématiques en disant, eh bien voilà, choisissez l'ordre dans lequel on va vous jouer la pièce, ou les mises en mouvement de pièces cinétiques. Vous savez, quand vous rentrez dans des salles où vous avez des objets que vous pouvez toucher pour les mettre en mouvement de façon à ce que la lumière puisse agir, réagir ou interagir différemment. Michel Dufresne nous dit, c'est pas ça, l'interactivité avec l'art, mais c'est le fait que chacun deviendra producteur de l'art et de l'œuvre d'art. Concluons sur ce sujet-là. Il nous dit qu'il faut vouloir le développement de l'humanisation et de la civilisation. Pour ce faire, il nous faudrait nous affirmer comme des sujets historiques, c'est-à-dire capables de vouloir et d'agir sur le monde, les choses et le cours des choses. Il nous faudrait viser la création d'institutions qui nous permettraient d'apprendre à savoir et à rêver. Il nous faudrait participer en acteurs à notre existence, cesser d'être les spectateurs de notre existence pour faire de telle sorte que nous puissions intégrer la grande aventure de la science et de l'art. Il faudrait également réhabiliter le sentiment dans un monde qui l'a détruit par la technique ou par les structures. Il nous faudrait retrouver le sens de la nature, du paysage, de la contemplation. Il nous faudrait abolir les philosophies nébuleuses et idéalistes. Évidemment, on songe au structuralisme, au profit du réalisme. On songe à la philosophie de Dufresne, mais tout ça est un peu normal. Il nous faudrait repenser nos relations avec le végétal et avec l'animal, lutter contre le gaspillage, réorienter la technique dans le sens d'une relation harmonieuse avec la nature, c'est-à-dire dissocier définitivement le capitalisme de la productivité. Ça donne raison à ceux qu'on appelle aujourd'hui les décroissants. Le tout pour faire, nous dit-il, et c'est une citation, rayonner le feu divin de la beauté. Et ce sont les derniers mots pour l'homme, ce sont aussi les derniers mots de ma séance. Merci beaucoup. Je ne vous représente pas Pour l'homme, qui était donc le livre que nous avons analysé pendant les deux séances, mais d'autres ouvrages de Michel Dufresne, Subversion, perversion, aux presses universitaires de France, un autre qui s'appelle Art et politique, qui est publié aux éditions 10-18, et des petites interventions ça et là qu'on retrouve dans Revue d'esthétique, qui était une revue qu'il dirigeait. L'art de masse n'existe pas, avec des interventions de lui. 10-18 aussi. 10-18 également, structuralisme et marxisme. Des mélanges offerts à Michel Dufresne, c'est-à-dire des textes que les gens qui aiment Dufresne lui ont offerts. Un volume complet qui s'appelle « Vers une esthétique sans entrave ». Et puis, Revue d'esthétique, toujours, mais ça c'est un numéro, pas posthume, enfin c'est un numéro qui est paru après la mort de Michel Dufresne, la vie, l'amour, la terre, chez Jean-Michel Place. Voilà pour la bibliothèque.
C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, France Bleu Basse Normandie, collaboration technique, Centre Dramatique National de Normandie. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Demain, Ado, une révolution de velours.